Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Autour de moi, Pascal Essieric de la revue Élément et Philippe Christel. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir Patrick, bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie et je voudrais faire un tout petit message à quelques...
Ah, vous commencez.
Oui, très rapidement,
tout
c'est parce que j'ai rencontré quelques auditeurs actuels et peut-être demain contributeurs de valeur de notre émission ou d'autres émissions de la station et donc je voulais passer un fraternel salut à Henri, Adrien, Auriol, Eulalie et Antonine.
D'accord. Notre sujet ce soir, c'est une nouvelle maladie qui est arrivée depuis maintenant un bon moment. Elle s'est diffusée à vitesse grand V, c'est la russophobie. Et pour une fois, la France est en pointe dans cette nouvelle phobie. Depuis la crise ukrainienne, les médias ont accéléré le phénomène. La Russie est-elle vraiment redevenue un danger comme à la bonne époque soviétique avec ses réseaux d'influence dignes d'un polar de Vladimir Volkov? Où est-on dans une sorte d'énorme mascarade? Alors pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Robert Raviot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de civilisation russe et soviétique à l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Alors nous vous avions déjà reçu pour votre livre Démocratie à la russe aux éditions Ellipse. Nous avons parlé maintes fois de cette guerre froide qui n'en finit pas avec une presse française très souvent russophobe. Philippe Christel, les auditeurs le savent bien, l'évoque souvent sur Radio Courtoisie, mais j'ai l'impression qu'un cran supplémentaire a été franchi depuis quelques mois. Aujourd'hui, en France, on parle carrément d'éléments politiques, économiques, universitaires directement payés par Moscou. Je citerai comme exemple l'inégalable journaliste de Libération, Lorraine Millot, expliquant le 24 octobre, même des instituts de recherche bien établis en France, comme l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques LIRIS ou l'Institut Français des Relations Internationales LIFRI, sont parfois sensibles aux sirènes russes, du fait des financements privés dont ils dépendent. Ces attaques sont plutôt nouvelles. Jean-Robert Raviot, vous êtes carrément, en tant qu'universitaire, votre nom n'est pas cité, mais enfin, on commence à se demander si tous les universitaires français ne sont pas payés par Moscou.
Non, mon nom n'est pas cité, d'ailleurs il n'y aura aucune raison qu'il le soit, et je voudrais dire aux auditeurs que la Libération a publié à la suite de cette tribune assez déplaisante, enfin tribune, éditoriale, je ne sais pas comment appeler ça, parce que c'est une journaliste qui l'a écrit, une réplique d'une de nos collègues de l'IFRI, justement Tatiana Kostoyeva-Jean, qui explique quand même que, effectivement, qui remet un peu d'ordre dans les esprits après cet article qui, moi aussi, m'a fortement déplu, fortement choqué, parce que c'était cette journaliste que je connaissais pas d'ailleurs.
C'est pas la première fois qu'elle écrit sur la Russie, enfin dans Libération.
En tout cas, c'est une claire, la complaisance vis-à-vis de Moscou. Enfin, on était dans des schémas de guerre froide et dans une accusation directe à l'égard de certains collègues, notamment Jacques Sapir et d'autres, qui me semble être d'un autre temps et surtout, complètement erroné. À vrai dire.
Mais comment l'expliquez-vous? Parce que on pourrait citer Libération tout à l'heure, je citerai aussi, le Nouvel Os, mais aussi Le Figaro qui à un moment a bien déliré. Aujourd'hui, on s'attaque directement, avant on discutait sur la Russie, maintenant on discute plus, c'est-à-dire qu'on est en train de pointer l'ennemi français, des gens qui sont un peu soupçonneux. On a l'impression que c'est la cinquième colonne.
Alors moi je m'explique pas ça d'un point de vue français parce que plus exactement il y a plusieurs niveaux. Si on regarde la presse française, il faut distinguer la presse économique et la presse en général. Évidemment tout tourne en ce moment autour de cette histoire de Mistral. Donc ce qui était suggéré par Lorraine Millot, c'est que certains collègues, par exemple Philippe Migaud, est directement visé dans cette affaire, soutenait en réalité des thèses qui soutenaient des thèses en faveur de la vente des Mistral. Bon, je crois que c'est ça le point cardinal. Et certains titres, certains quotidiens ont peut-être envie de se faire un peu de virginité, ou acheter une virginité auprès de l'opinion publique ou de leurs lecteurs, ou ce qu'il en reste, en disant voilà, nous sommes des gens purs et durs, nous sommes des vrais journalistes, et nous dénonçons les complicités de la France, et bon, etc., etc. Je pense que cette histoire du Mistral est très importante. Bon, après, il y a aussi une accusation plus générale sur ce qui serait la Russie aurait une politique d'influence qui passerait directement par le financement d'un certain nombre d'instituts. Ça, j'ignore, mais je pense que ça me semble assez difficile. Ce que je peux dire en tant qu'universitaire dans une université publique française, Nanterre, c'est que il y a effectivement, ce qu'on voit arriver beaucoup, c'est la fondation Ruski Mir, donc le monde russe, qui est une fondation proche du pouvoir, qui a une action très très insistante, qui veut à tout prix monter des bibliothèques. Bon, mais en même temps, bon, moi j'ai une approche assez pragmatique. Je pense qu'effectivement, si l'État russe ne fait pas ce qu'on appelle, alors je sais pas comment vous allez m'apprête à mettre déjà mon premier euro dans le cochon, le soft power, c'est-à-dire la puissance, l'influence. Bon, si l'État russe ne fait pas une politique d'influence en matière culturelle, en matière n'essaie pas de donner une image positive de la Russie si l'État russe ne le fait pas, et si les fondations proches de l'État russe ne le font pas, qui va le faire? Bon, ils offrent des bourses, ils ont des projets qui semblent assez de se développer, à titre personnel je trouve que c'est plutôt pas mal si on peut en faire profiter nos étudiants et en faire profiter nos collègues. Bon, ensuite il y a des réseaux plus politiques. On parle beaucoup en ce moment des liens entre le Front National. Est-ce que le Front National ou une partie du Front National serait financé ou serait soutenu par la Russie? Il y a eu des visites de cadres du Front National à Moscou. Le président de la Douma, Narychkina aussi. Bon, alors ça, je pense que c'est derrière ces tribunes, celle de Laurel Millau et d'autres, on voit revenir cette affaire-là. Bon, attendons que des journalistes dignes de ce nom et sérieux fassent une enquête et nous disent ce qu'il en est.
Est-ce que vous avez l'impression que la crise ukrainienne a-t-elle été un accélérateur de cette politique de diabolisation de la Russie?
Oui, très clairement. Je pense qu'elle a vraiment polarisé très fortement les milieux universitaires aussi, et aussi chez les spécialistes de la Russie. Chez mes collègues, c'est devenu assez difficile, il y a vraiment, je dirais, deux camps, même trois camps. C'est aussi le camp des gens auxquels j'appartiens. Enfin, c'est-à-dire des gens qui essaient de comprendre ce qui se passe, ce qui n'est pas du tout évident. Oui, il y a une très forte polarisation et une volonté, avec chacun ses non-dits. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui s'est passé entre le 20 et le 22 février à Kiev. J'ai pas l'impression que ce soit, que cet intérêt soit tellement partagé chez les journalistes d'investigation, chez les journalistes et chez certains collègues qui soutiennent ouvertement d'ailleurs le gouvernement de Kiev. Bon.
On peut rappeler peut-être pour nos auditeurs ce qui s'est passé entre le 20 et le 22 février.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas tout simplement, je m'intéresse aux circonstances du départ du président Yanukovych d'Ukraine. Par un mouvement de masse, de manifestation de masse, dit Maïdan, qui a duré plusieurs mois, enfin plus exactement deux phases de plusieurs semaines, qui est un réel mouvement de mobilisation, c'est pas du tout, enfin avec plusieurs éléments à l'intérieur, on va pas revenir là-dessus, vous avez déjà fait des émissions et nombreuses émissions sur ces questions-là, mais le point pour moi, le problème, c'est de savoir dans quelles conditions et historiques et politiques Yanukovych est-il parti. Voilà. Et ça, c'est un point qui est assez rarement discuté. Moi, dans le milieu dans lequel je suis, j'ai des collègues de toutes opinions avec qui je discute. Et c'est vrai que chez les spécialistes de l'Ukraine, et des bons spécialistes de l'Ukraine, disons, globalement, majoritairement pro-Kiev, c'est vraiment le point difficile, c'est-à-dire est-ce que c'est une révolution qui a mené au départ d'un président qui est devenu illégitime, ou est-ce que c'est un coup d'État? Et si c'est un coup d'État, comment est-ce qu'il a été mené? Quelles sont les forces derrière? Etc., etc. Et il y a un certain nombre de questions qu'il est devenu difficile de poser. Bon. Maintenant, c'est vrai que de l'autre côté aussi, il y a une propagande russe et un regard russe officiel sur le mouvement de Maïdan, qui n'est pas non plus... il y a une polarisation des opinions qui rend difficile le débat. Et je pense que ça a été transcrit en France, plus qu'ailleurs. D'ailleurs, je voudrais dire, c'est qu'en France, il y a un blocage total du débat, notamment dans la presse, débat public, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. En Angleterre, si on lit la presse américaine ou britannique, on a quand même une très très large pléiade d'opinions ou de points de vue qu'on ne trouve pas dans la presse française. La presse française est globalement, disons, enfin la grande presse, on va dire la presse, les grands courants de la presse, les grands quotidiens, etc., sont clairement anti-russe et pro-ukrainien. Et cette russophobie, comme vous avez dit, je ne sais pas si c'est une russophobie, mais une kremlinophobie ou une poutinophobie, plus que russophobie, c'est cristallisé avec l'affaire ukrainienne, je pense.
Oui, parce qu'on l'a bien vu, par exemple, dans ces histoires pendant quasiment un mois où on a parlé, on l'avait reçu ici, Alexandre Douguin, où des gens comme Bernard-Henri Lévy ont fait croire que Alexandre Douguin était quasiment le conseiller du président russe. Il n'y a pas un seul spécialiste de la Russie qui connaissait Alexandre Douguin comme et on s'aperçoit que toute la presse, le Nouvel Observateur, tout le monde a fait des portraits. Alors c'est l'avantage d'Alexandre Douguin, c'est qu'il ressemble un peu à Rasputin, donc tout de suite ça parle aux gens. On a fait des articles entiers sur cet intellectuel russe qui n'a jamais eu d'influence au niveau du pouvoir auprès de Poutine.
Bah, qui n'a jamais eu d'influence directe, c'est-à-dire, je pense qu'il a jamais d'abord été conseiller, il n'a jamais eu un bureau.
Lui, il le revendique même pas.
Officielle, il ne le revendique pas. Il revendique avoir une certaine influence. Il a écrit un livre dans lequel il prend parti soutenant Poutine, tout en le critiquant d'ailleurs aussi à certains égards. Effectivement, ça m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire, comment on peut partir là-dessus je pense qu'il y a un phénomène idéologique très fort, c'est-à-dire on a besoin de diaboliser ce pouvoir russe qui n'aurait pas besoin de ça pour être diabolisé, je veux dire, comme n'importe quel pouvoir en action. Aucun pouvoir en action, même le plus démocratique du monde, ne peut échapper à une critique. Il y a toujours une face sombre dans le pouvoir, et je pense que c'est le drame de certains intellectuels aujourd'hui, c'est d'ignorer ça, ou de vouloir croire qu'on peut avoir un pouvoir sans face sombre. C'est pas possible. Et effectivement, comme vous dites, Rasputin, Douguin ressemble à Rasputin, il a un côté un peu illuminé aussi. On le présente comme un eurasiste orthodoxe. Bon, moi, j'ai toujours pas compris ce que c'était vraiment qu'un eurasiste orthodoxe. Je sais ce que c'est qu'un eurasiste, je sais ce que c'est qu'un orthodoxe. Mais les deux ensemble me semblent assez difficiles à mettre en place. Mais tout ça, ça fait, disons, une image de méchant, de méchant et mystérieux. Il faut que la Russie soit mystérieuse, il faut qu'elle soit un peu troublante, un peu sanglante aussi. Hein. Je pense que en France, comme en Angleterre, aux États-Unis, etc., et même en Allemagne, on vit sur des mythes beaucoup de la Russie.
On ne sort pas du marquis de Custine, quoi.
Disons que oui, il y a une certaine continuité entre le marquis de Custine, entre une certaine vision anglaise de la Russie à la fin du 19e, dont on parlait tout à l'heure entre nous, et puis bien sûr l'Union soviétique, etc., etc. Il y a une mythologie de la Russie qu'il faut, qu'il est assez facile d'entretenir, à vrai dire.
Philippe Christel.
Oui, je pense que à l'évidence, la crise ukrainienne révèle une radicalisation des rapports entre l'Ouest et la Russie. On le sait, ça fait quasiment depuis la volonté de la Russie, avec l'arrivée de Poutine, avec sa verticalisation des pouvoirs, avec la volonté de la Russie d'échapper au carnage des années FMI et de reconstruire une souveraineté, de ce moment-là date une opposition avec, on va dire, le camp atlantiste qui, on va pas refaire l'histoire et nos auditeurs nous suivent suffisamment pour le savoir, ce camp atlantiste n'a qu'une seule hantise s'agissant du théâtre européen au sens large, c'est cette alliance, sous quelque forme que ce soit, entre l'Europe et la Russie. Ce que l'on sait, c'est que la nouveauté, c'était le discours de Prague de Barack Obama, que nous avons abondamment commenté sur cette antenne, c'est que les États-Unis ont de moins en moins la capacité à être présent sur toutes les zones de tension entre leur aire d'influence et leur concurrent potentiel. Et à l'évidence, il désarme progressivement, il déséquipe progressivement le front européen, vais-je dire, pour se concentrer sur le front pacifique. Et on a comme l'impression que l'affaire ukrainienne est utilisée pour créer la plaie la plus béante possible et un écart le plus vif possible entre les Européens et les Russes, de manière à dire, comme je ne peux pas continuer à instrumentaliser les choses, je pars en laissant une cicatrice la plus violente possible, et au moins c'est toujours ça le temps que ça prendra avant de se recoudre, le temps pour moi de continuer à sauver mes intérêts de l'autre côté. Et je voudrais prendre un certain nombre d'exemples qui témoignent de cette volonté de créer cette fracture avant même de l'entretenir. C'est que sur l'affaire ukrainienne, le camp atlantiste, donc très clairement aiguillonné par les Américains, a fait le choix de manière politique, économique, diplomatique, de ne laisser aucune alternative à la discussion. La première chose, c'est l'acte politique majeur, celui dont nous venons de parler à l'instant, c'est la reconnaissance par les diplomaties occidentales du pouvoir post-Maïdan, donc du pouvoir qui sort des événements de février. Et c'est donc une décision qui, en droit international, est quelque chose est un ovni, est inexistant, qui est même une faute, qui consiste à reconnaître quasiment à la fin des événements un pouvoir qui vient simplement par les armes de chasser un pouvoir élu par les urnes. Première chose. Deuxième élément, c'est la politique des sanctions. La politique des sanctions est systématiquement instrumentalisée à chaque fois qu'on dit que la Russie fait un pas en arrière, n'est jamais assouplie dès lors que la Russie fait un pas en arrière. Cette politique des sanctions, elle a pour bénéfice, à court terme, de ruiner des liens économiques forts qui existent entre les pays d'Europe de l'Ouest et la Russie, que ce soit sur le terrain agricole, que ce soit sur le financement du pétrole et des compagnies qui sont au sens large dans le pétrolier. La cerise sur le gâteau étant bien évidemment l'opération Mistral. Si en plus on pouvait décrédibiliser la parole de la France, qui est le seul constructeur de matériel militaire à fort enjeu concurrent des arsenaux militaires anglais ou américains, ce serait évidemment la cerise sur le gâteau. Mais donc, à l'évidence, là, il y a toute une politique de sanctions qui sont prises pour faire mal autant à l'un qu'à l'autre. Et à chaque pas en avant ou décrit comme tel de la Russie, ces sanctions sont maintenues. Je prendrai pour exemple les fameux accords de Minsk, où on part du principe que ça y est, on s'est mis d'accord, il va y avoir des nouvelles élections, etc. On est content que la Russie ait signé, tout ceci s'apaise, il y a moins de conflits, etc. Et en fait, la Russie ne retrouve aucun bénéfice d'avoir signé ces accords, ce qui explique probablement ce qui est en train de s'articuler là maintenant sur les zones de l'Ukraine. Le troisième élément, et il est diplomatique, c'est que à l'évidence, il n'y a jamais... Qu'est-ce que c'est que la diplomatie ? La diplomatie, c'est faire exister un rapport de force et un déséquilibre qui permet d'arriver à une situation meilleure en montrant à l'un et à l'autre, enfin en montrant à l'autre, à celui avec lequel vous discutez, ce qu'il peut gagner à discuter avec vous. Quelles sont les offres ? Quelles sont les ouvertures ? Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Rien. Et donc, on place la Russie dans une situation à soit céder et montrer en fait qu'elle perd le bras de fer face à ses contempteurs, soit à s'enfoncer dans sa politique décrite comme impérialiste, violente, tout ce que vous voulez. Et donc, il n'est, à mon sens, pas totalement absurde qu'effectivement, le volet médiatique de l'affaire vienne couronner le dispositif. Et comme on est dans une logique où on n'est pas dans une construction d'amis d'ennemis, mais qu'il faut très vite que les bons et les méchants soient connus, que les camps soient connus pour qu'on puisse les opposer et les maintenir, voilà pourquoi je pense qu'on a ce niveau d'hystérisation avec la spécificité effectivement de la presse française qui par ailleurs doit gérer la complexité FN à 30%. Soit dit en passant, pas totalement surprenant qu'un État qui essaye de comprendre la politique de ses principaux partenaires s'intéresse à un parti qui fait 25%, qui est dans une croissance folle et qui pourrait prétendre au pouvoir demain, puisque les sondages du DPI le disent eux-mêmes. Et vous verrez que le dernier volet médiatique de l'affaire, on est en train de le préparer, et c'est amusant parce que c'est ce qui se passe à l'APEC en ce moment, donc au Forum Asie-Pacifique, où on va nous expliquer, vous allez voir que ce fumier de Poutine est en train de tomber dans les bras des Chinois, et que ces deux-là vont s'allier contre l'Occident. Figaro d'hier, Xi Jinping et Poutine unis dans leur rejet de l'Occident. Poutine, avec tout ce qu'on fait pour lui, ce gars-là va s'allier aux Chinois. Donc vous allez voir que la construction va se parachever, et du coup... Xi Jinping et Poutine, ils sont alliés contre qui ? Ils sont alliés contre les États-Unis et nous, CQFD.
Jean-Robert Aviaud là-dessus, et c'est vrai que la politique américaine, au moins ils sont clairs, il n'y a pas un complot qui est caché, ils disent clairement qu'ils ont fait pression sur les Européens, que ça n'a pas été facile, mais que...
Oui, Joe Biden, dans un discours il y a quelques mois, a clairement dit devant une assemblée d'étudiants à Harvard que effectivement les Américains avaient eu recours à des pressions pour imposer l'idée des sanctions, idée à laquelle les Français et surtout les Allemands étaient assez réticents. Bon, il l'a dit ouvertement.
Moi, je vais revenir tout à fait en complément à ce qui vient d'être dit.
Vas-y.
Sur le discours de Poutine du 24 octobre au club Valdaï à Sochi, parce qu'il me semble effectivement que c'est un discours extrêmement important, qui fait suite au discours de Munich de 2007 et qui explique assez bien et qui revient assez bien sur la position russe. Enfin, on cherche à comprendre la position russe, la position de Poutine et son regard sur le monde, si on peut dire. Je pense qu'il faut quand même écouter ce qu'il raconte. Et moi, je fais ça. C'est un aspect de mes travaux de recherche, c'est de lire in extenso à peu près l'ensemble de ce qu'il dit, écrit, etc. Le site du Kremlin, d'ailleurs, est très bien fait. Absolument tout est d'ailleurs traduit en anglais pour ceux qui ne voudraient pas, qui ne peuvent pas avoir accès aux Russes. L'anglais est quand même finalement assez pratique. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il dit de manière assez claire, il se livre à une critique radicale de l'évolution des rapports de force de l'après-guerre froide depuis 91. Donc, on revient toujours à cette affaire de la fin de la guerre froide. Et donc, il dit, voilà, à la fin de la guerre froide, les États-Unis ont imposé un nouvel ordre mondial. D'ailleurs, c'est le terme que Bush a employé, Bush père. On construit un unilatéralisme partisan de la globalisation. Et on a aussi globalisé, disons, l'idéologie euro-atlantique. Et on a vu l'OTAN aussi sortir de sa zone européenne pour aller en Irak ensuite, etc. Bon, être impliqué en Afghanistan, etc. Et on a vu aussi une alliance atlantique entièrement soumise aux intérêts américains. Est-ce qu'il... Bon, je résume hein, ce que dit Poutine, parce que le discours est assez long. Et contre ça, il faut construire un monde multipolaire et ou qu'on revienne aux fondamentaux de l'avant 91, où les règles en fait, où les règles de jeu international ne sont pas dictées par des valeurs supérieures, qui seraient des valeurs par exemple imposées par l'axe euro-atlantique, mais par un espèce d'accord, de consensus entre les grandes puissances. Ni voilà. Je cite les États-Unis dans une mauvaise traduction, qui est la mienne, j'assume. Les États-Unis qui se sont déclarés vainqueurs de la guerre froide n'ont pas vu le besoin qu'il y avait à reconstruire un nouvel ordre mondial multilatéral. Au lieu de ça, ils ont, au lieu d'établir donc un nouvel équilibre mondial, essentiel pour maintenir l'ordre, la stabilité, la paix, les États-Unis se sont lancés dans des entreprises qui ont mené à de forts déséquilibres stratégiques en leur faveur. Donc je pense que cette lecture du monde, elle est assez, qui est celle de Poutine, et n'est pas seulement celle de Poutine. D'ailleurs, Poutine n'est pas, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais c'est sur le pouvoir, comment fonctionne le pouvoir en Russie. C'est pas un leader, enfin c'est pas un dictateur type Kadhafi, hein, c'est absolument rien à voir. Il y a un fort consensus sur cette vision du monde et cette lecture du jeu international aujourd'hui à Moscou, qui dépasse largement d'ailleurs le pouvoir, le Kremlin. Il y a des gens qui sont d'ailleurs aussi pas d'accord, mais en gros c'est la vision russe des choses, hein, de 90% disons des experts, des politistes, des journalistes, etc. C'est la manière dont on voit, c'est-à-dire une espèce d'unilatéralisme américain qui empêche, et comme vous le disiez tout à l'heure très justement, qui empêche, qui bloque aussi la relation entre la Russie et l'Europe. Et ce que les Américains sont sans doute en train de faire en mettant cette pression avec les sanctions, c'est de pousser l'Europe à prendre ses responsabilités dans le s'il y a un axe euro-atlantique, ce que les Américains sont en train de se désengager financièrement, militairement, etc. L'idée aussi, c'est de passer le relais à une puissance européenne qui va et cette puissance européenne qui pour les Américains devrait prendre le relais de disons de la espèce de puissance tutélaire sur l'Europe, c'est clairement l'Allemagne. Bon. Encore, discours officiel, Madame Merkel qui a dit au mois d'octobre, non, au mois de mars, quand, après l'annexion de la Crimée, elle a dit, voilà, dans une conversation avec Barack Obama, les dirigeants russes enfin, Vladimir Poutine ou les dirigeants russes ont perdu tout contact avec la réalité et qui sont dans un autre monde. Ça m'a beaucoup frappé, cette phrase, parce que pourquoi Madame Merkel, qui est quand même quelqu'un d'assez raisonnable, qui a l'air d'être une dame qui pèse chaque mot qu'elle peut dire, a-t-elle éprouver le besoin de faire savoir à la presse qu'elle avait dit ça à Barack Obama, parce que c'était pas c'est pas quelque chose de public, c'était une conversation avec Barack Obama qui a été publiée. Et en réalité moi ça m'inspire sous forme de question, c'est-à-dire qui est dans un autre monde, est-ce que c'est Angela Merkel, est-ce que c'est Poutine qui est dans un autre monde, est-ce que c'est les dirigeants euro-atlantiques qui sont dans un autre monde, c'est quoi le monde justement. Encore une fois, et dernier point, pour tout à fait rebondir ce que vous avez dit sur la Chine comme espèce de, comment dire, d'épouvantail
L'ancien oligarque Mikhail Khodorkovsky, qui était assez longtemps en prison, qui était libéré cette année, enfin l'année dernière, je ne le présente plus, qui maintenant vit à Berlin, s'est lancé dans toute une campagne depuis quelques semaines de conférences, qui sillonne le monde, est à Washington, est à Oslo, c'était à Prague, enfin bon. Et à Washington, le 3 octobre dernier, Il a prononcé devant Freedom House, donc l'ONG américaine de promotion des droits de l'homme, de la démocratie, etc., financée à 100% par le National Endowment of for Democracy. Je suis désolé, je suis obligé de...
C'est un nom propre, ça.
C'est un nom propre, donc la Fondation pour la démocratie, donc qui est une fondation entièrement financée par l'État, par le Congrès, avec une dotation du Congrès. Il s'est lancé dans tout un discours sur la dictature en Russie, bref. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est il y a tout un discours géopolitique, maintenant. Il est développé par Khodorkovsky, repris par pas mal de libéraux russes, entre guillemets, dont Nemtsov, par exemple, qui dit, il est impératif de se débarrasser de cette clique qui est au pouvoir, qui est totalement illégitime, qui bloque l'alternance au pouvoir, qui bloque l'émergence d'une opposition, qui est corrompue, etc. Je reviendrai là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que la Russie entre, si on peut dire, fasse partie du camp occidental contre la Chine. Parce qu'il faut vraiment que la Russie comprenne qu'elle va se faire bouffer par la Chine. Voilà. Il y a même un de mes collègues et amis russes, tout à fait très libéral, ex-dissident, etc., qui publie beaucoup sur son blog et qui a dit, voilà, le Kremlin, maintenant, c'est une sorte de comité du parti de Pékin. En fait, c'est là, Poutine est un agent de Pékin. Voilà. Donc c'est intéressant ce qui se passe dans cette... Enfin, évidemment, c'est une guerre des représentations, mais
c'est intéressant,
on est en plein dedans.
C'est même puissamment savoureux, parce que si on fait un peu d'histoire, je rappelle que pourquoi Mikhail Khodorkovsky s'est fait mettre la main au collet par le Kremlin, à l'époque où il était tout puissant patron de Yukos, c'est quand il a décidé seul et sans l'avis du Kremlin de construire les bases d'un oléoduc vers la Chine. Ce qui est assez drôle, pour des raisons bassement et vilement commerciales, qui était de dire, moi, j'exporterai mon pétrole tout seul, comme je veux, comme un grand, vers la Chine, et que c'est à ce moment-là qu'il a été... Bon, ça, mais je ferme la parenthèse, ça ne fait que remettre en valeur la pusillanimité, voire l'hypocrisie totale du personnage. Ce qui est certain, c'est que les 15 dernières années, les 15 années qui viennent de s'écouler, on pourrait, tous les 6 mois, trouver un exemple de choix de politique vers l'Est que Vladimir Poutine n'a pas fait. Et que ça fait 15 ans que Vladimir Poutine continue, contre vents et marées, à chercher cet amour avec l'Europe occidentale, continentale, amour qui lui est refusé, avec en prime toutes les humiliations d'usage. Qu'aujourd'hui, à tel point que mon sentiment est même que, il me semble que Vladimir Poutine va de manière très prudente dans ses relations avec la Chine, et même quand il s'adresse à la dimension asiatique de sa politique, il prend soin d'équilibrer une partie de ses efforts entre Chine et Japon notamment. Donc, décrire Poutine comme étant le jouet de Pékin me paraît être particulièrement fallacieux. Sous la boutade, vous avez vu l'opération de ce qu'on appelle le Code Gate, là, le sommet de la PEC, avec cette histoire de manteau mis par Vladimir Poutine sur les épaules de la première dame chinoise, et qui déchaîne la fureur des internautes chinois, allant jusqu'à déclencher la censure sous prétexte que la Russie voudrait mettre la main sur la Chine, etc. Donc là, Poutine, homme de Pékin, peut-être dans le cerveau malade et corrompu de Khodorkovsky, c'est possible. Ailleurs, pour l'instant, il va falloir un peu documenter la thèse, me semble-t-il.
Alors vous êtes sur Radio Courtoisie et nous sommes actuellement avec Jean-Robert Raviot et nous voyons cette nouvelle russophobie qui est arrivée dans notre presse. Jean-Robert Raviot, contrairement à ce qu'on croit, c'est que au sein même du pouvoir russe, j'ai l'impression que les attaques occidentales ont soudé un peu plus le russe de la rue avec Poutine. Et en même temps, le paradoxe, c'est que ces attaques occidentales ont un peu affaibli les adversaires du président, qu'on n'entend plus. C'est-à-dire les Russes sont, du jour au lendemain, se sont remis à être pro-poutiniens. Ce qui n'était pas le cas juste avant la crise ukrainienne.
À vrai dire, je suis assez sceptique parce que, enfin, effectivement, les sondages, l'opinion, si on regarde l'opinion publique, les sondages, etc., bon, donnent.
Oui, à partir du moment où on croit aux sondages qui sont.
Oui, c'est les sondages sont devenus, la cote de confiance en Poutine a fortement augmenté après l'annexion de la Crimée. Il y a eu toute une opération en Russie de propagande en faveur du rattachement de la Crimée. On a parlé de Krimnash, la Crimée c'est à nous. Propagande qui était menée avec des ficelles assez grossières et assez soviétiques, hein. Faut le dire très clairement. Est-ce que cela a augmenté la cote de popularité de Poutine, la cote de confiance? Peut-être, oui. Mais je pense que les choses sont bien plus complexes que ça. Et en fait, bon, en réalité, certes, mais je pense que la cote de popularité n'est jamais tombée très bas. Mais il est vrai que les résultats des élections de décembre 2011 ont montré un tassement. Il y a eu une désillusion ou peut-être une désaffection à l'égard du système au moment où Medvedev, enfin où il y a eu cette sortie du tandem et où le président sortant Medvedev a adoubé, si on peut dire, Poutine comme successeur. Il y a eu une véritable réaction assez profonde de, je dirais même chez des gens qui ont finalement voté Poutine ensuite, vraiment on nous prend pour des idiots quand même, quelque part. Bon, ce système, bon. Il y a eu ensuite cette vague de manifestations à Moscou et dans les grandes villes en 2011-2012, pendant l'hiver, la fameuse révolution des neiges, entre guillemets, qui y a eu une réelle mobilisation. Bon, il y a une réelle mobilisation d'une certaine partie de la population. J'avais publié un petit article tout petit là-dessus où je voyais quand même que c'était la Russie la plus bobo en fait. Bon, je dis pas ça d'ailleurs de manière méprisante. C'est vraiment les classes urbaines supérieures, les plus jeunes, ce qu'on appelle les classes moyennes, bon, etc., etc. Mais dans ces mobilisations, on pouvait voir aussi des choses qui n'ont pas été tellement. Si on regarde la presse française. Ça a été assez peu couvert. On a beaucoup montré, la partie libérale de ces manifestations démocratiques, les leaders, je reviendrai dans une minute. Mais il y a aussi toute une dimension nationaliste à cette protestation et à cette mobilisation. Il y a aussi en Russie aujourd'hui une opposition entre guillemets de rue nationaliste assez forte dont le pouvoir a très peur. En fait, bon. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans la rue entre 2011 et l'hiver 2011-2012? Il y avait des entre guillemets démocrates et il y avait aussi beaucoup de nationalistes qui se sont d'ailleurs qui ont partagé les tribunes, place Pouchkine, etc., etc. Tout ça, c'était très intéressant à voir. Et quand je dis nationaliste, c'est beaucoup de nationalistes, on pourrait appeler nationalistes ethniques, des gens qui sont en faveur d'une Russie, la Russie aux Russes, etc., etc., qui est un type de nationalisme assez nouveau en Russie, en fait, post-soviétique. Bon. Face à ça, le pouvoir a plutôt réagi de manière habile. Il y a eu pas mal de réformes politiques. Les gouverneurs ont été de nouveau élus au suffrage universel. On a changé la loi sur les partis. On a assoupli les conditions d'enregistrement officiel des partis politiques. C'est-à-dire qu'on a, on est revenu sur toute une série de mesures d'administration politique, comme j'ai dit dans mon bouquin, c'est-à-dire de contrôle politique qui empêche en Russie, ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation de démocratie sans alternance. Bon, c'est une démocratie sans alternance. Il n'y a pas d'alternance possible parce qu'il n'y a pas d'alternance possible dans ce système. On est en Russie dans un système sans alternance et on est chez nous dans une alternance sans alternative, comme j'explique souvent. Bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé finalement? Les manifestations, bon, il y a eu quelques arrestations arbitraires même, il y a eu quelques affaires qui ont été pas mal montées en épingle. Que représente finalement, disons, la frange libérale de cette protestation? Elle représente une petite partie de la population et une partie bien sociologiquement bien déterminée dans les grandes villes, etc., etc. Elle n'a pas beaucoup d'appui, elle n'a pas beaucoup de profondeur sociologique. Quand on voit aujourd'hui le discours de Khodorkovsky, moi j'étais étonné de voir que Khodorkovsky, dans son discours de Freedom House, il y a pas mal de journalistes français notamment, mais aussi américains, anglais, ils disent « Ah, c'est formidable, c'est un discours qui porte les valeurs libérales, à Sciences Po, on a vu Khodorkovsky aussi venir faire un c'était il y a 15 jours. Mais en réalité, c'est un discours sans vouloir. On pense qu'on veut des valeurs libérales et de Khodorkovsky. Personnellement, je pense qu'elles sont, elles n'ont pas beaucoup de résonance en Russie, en fait. Pas énormément. Est-ce que le discours de Poutine a une résonance? Oui et non. En fait, le fondement réel de la légitimité de Poutine, c'est sa personne. On est dans une sphère un peu monarchique. Et c'est une certaine désaffection générale à l'égard du politique qui va de pair. Et ce qui est frappant dans les sondages, c'est de voir à quel point la popularité de Poutine existe, est réelle. Enfin, la popularité, sa légitimité, il est élu largement. Sa cote de popularité ne baisse pas et monte. Et en même temps, si on pose la question, que pensez-vous du système politique? Que pensez-vous des élites politiques? Il y a une très grande désaffection à l'égard de... Donc il y a à la fois un plébiscite à l'égard de celui qui est à la tête de l'État, et une très grande désaffection à l'égard du système politique. Donc c'est quand même quelque chose, c'est quand même un paradoxe fondamental. Et on ne peut pas passer à côté de ça quand on analyse la Russie aujourd'hui.
Oui, pour compléter à mon tour, effectivement, quelques éléments. Le premier, c'est que le camp, effectivement, de l'opposition dite libérale, ayant très vite été comprise et instrumentalisée par le système médiatique occidental extérieur à la Russie, a créé une espèce de course à l'échalote d'un certain nombre de stars. On se souvient à l'époque de Irina Khachmata. Aujourd'hui, on a connu, bien évidemment, l'éternel et l'inoxydable, mais je pense que ça y est, c'est fini, là, Garry Kasparov, on a eu Nemtsov, et donc on a eu toute une série de concurrents qui, d'ailleurs, au moment des élections, n'ont même pas été capables de fournir des candidatures communes. Enfin, bref, le camp libéral anti-Poutine ne s'est pas aidé. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est qu'effectivement, il y a un mixte entre le désintérêt et la détestation de ces populations-là, c'est le syndrome Gorbatchev. Hein, Gorbatchev qui a été depuis des lustres adulé par toutes les chancelleries occidentales et adulé par toutes les salles de presse occidentales parce que c'était lui qui avait quand même dit « c'est bon, j'arrête, c'est vous qui avez gagné hein, ». Et ce qui lui a valu d'ailleurs de juteux contrats publicitaires avec Louis Vuitton et autres. Et ce qui prouve d'ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, que le climat d'hystérie médiatique anti-russe a franchi des seuils jusque-là inégalé, c'est que même Gorbatchev a dit trop c'est trop. Et je voudrais vous faire partager ce que très peu de journaux français, en tout cas dans leur intégralité, ont relevé. C'est que vous savez qu'on a fêté il y a deux jours les 25 ans du mur de Berlin. C'est autre tragédie et il y aurait beaucoup à dire sur ces pauvres Allemands à qui on reproche aujourd'hui beaucoup de choses, mais on n'a jamais quand même que le résultat de ce qu'on leur a infligé. Enfin passons. Et donc ils ont interviewé un certain nombre de grandes vedettes et notamment Gorbatchev. Et Gorbatchev a quand même, dans son discours, prévenu tout le monde. Alors, ça a jeté un peu un froid dans la fête. Il a dit « Le monde est au bord d'une nouvelle guerre froide. L'euphorie et le triomphalisme sont montés à la tête des dirigeants occidentaux. Tirant profit de la faiblesse de la Russie, ils ont cherché à prendre le monopole de la domination du monde. » Jamais on a entendu ça dans la bouche de Gorbatchev, qui était jusque-là le VRP, préféré des salles de presse. Le troisième élément, peut-être, pour répondre à votre question sur dans quelle mesure la volonté d'influence libérale ou occidentale n'a-t-elle pas, par son outrance, desservi la cause des opposants à Poutine ? Bien évidemment. Et que si l'opposition à Poutine s'était jouée sur éventuellement les droits de l'homme, la lutte contre la corruption, davantage de libertés individuelles, pourquoi pas ? Mais quand vous avez ajouté à ça le délire lié aux questions, alors je ne sais plus si c'est homophile, homophobe, enfin avec l'histoire des gays à Sotchi, que vous avez fait un ramdam pas possible autour de la scandaleuse exhibition des Pussy Riot, et enfin dont on se rappelle qu'elles ont délibérément outragé une cérémonie religieuse dans une grande cathédrale de Moscou. Donc vous avez pour le russe moyen, il est difficile pour lui d'expliquer que bah en fait dans tout ce cortège occidental, bon, il y a des valeurs qu'on pourrait refuser, mais non, lui il voit un seul système et assez spontanément il lui fait pas tellement envie. Donc il y a aussi ça, je pense que c'est à la fois les stigmates propres à ce système qui porte en lui-même ses propres tares et les choses ne sont pas si simples qu'on puisse manipuler les choses pour envoyer tel type de valeur et pas telles autres. Mais à l'évidence, le système Poutine bénéficie du fait que, un, son opposition est fragmentée entre des sous-vedettes qui se volent les 3 minutes de célébrité, deux, la voix hostile à Poutine porte un certain nombre de messages qui sont juste insupportables et inaudibles pour le russe de la rue.
Il y a un peu un mystère Poutine. En France, on le présente comme, bon, tout le monde sait, c'est un ancien membre du KGB. Mais Poutine, il a fait de la politique avant d'arriver au pouvoir. Comment ça se fait qu'en France, on ne parle jamais de Poutine, de son parcours, et contrairement peut-être, c'est vrai qu'en préparant cette émission, il y a quand même quelques articles qui expliquent bien que Poutine ne détient pas tout le pouvoir comme un dictateur en Russie, et que même la politique intérieure, il a une tendance en ce moment à déléguer plus qu'autre chose, ou même parfois à ne pas maîtriser.
Mais c'est un délégué, je sais pas. En tout cas, il y a deux aspects. Il y a Poutine, effectivement, est un monarque élu. Je pense la dimension monarchique, la forte dimension monarchique du système, qui ne veut pas dire dictatorial, mais monarchique, est tout à fait remarquable. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de voir comment ce monarque est monté en puissance. Lui, qui n'était pas un politicien au départ, même s'il était dans l'ombre des politiques, il a été effectivement un colonel du KGB, il a notamment en Allemagne de l'Est, ensuite il est revenu en URSS au moment de la chute de l'URSS, il a démissionné et il est entré au service comme bras droit du maire de Saint-Pétersbourg.
C'est là qu'il a vraiment
appris la politique et qu'il est entré, je dirais, dans le clan Yeltsin, enfin pour simplifier les choses. Et en 96, à la suite de la défaite du maire de Saint-Pétersbourg aux élections, il a été avec quelques autres, notamment des gens très célèbres qui sont aujourd'hui dans son entourage politique, très proche, a été appelé à Moscou, donc à l'administration fédérale. Et puis ensuite, il est monté je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses publiées, y compris en français, sur son parcours. Bon, simplement, il faut effectivement peut-être l'aspect ancien du KGB surdétermine peut-être la biographie de Poutine encore dans toutes les têtes, parce que c'est effectivement peut-être pas... C'est, évidemment que c'est très important, et ça explique beaucoup sa manière de fonctionner, d'ailleurs, sa manière de travailler, mais ça n'est pas la seule chose. Bon, ce qui est important pour comparer par exemple avec la France, par exemple, si on compare les présidents français successifs après le général de Gaulle et après Pompidou, c'est-à-dire Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, etc. Ces gens-là avaient occupé tous les postes possibles de politiciens. Hein, maire, conseiller général, député, etc.
Bon, ministre,
différents ministères. Ministre or, Poutine est arrivé, il avait été élu président de la Russie, et avant d'avoir été élu président de la Russie, il était élu à rien.
Comme François Hollande.
Comme François Hollande, c'est ce que j'allais dire.
Ah bah, François Hollande était quand même maire de Tulle, président du conseil général de la Corrèze. Non. Oui. Et puis surtout, François Hollande a été pendant longtemps responsable du parti, enfin, président du secrétaire général du Parti Socialiste, que Poutine était absolument dans aucun parti, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors la dimension monarchique qui se construit médiatiquement j'ai beaucoup travaillé sur le Poutine en 2000-2001, et puis aujourd'hui, si on regarde, si on compare les conférences de presse, l'aisance médiatique avec laquelle il se montre à la fois sur la scène intérieure, sur la scène internationale, c'est une révolution personnelle. Je pense que c'est la trajectoire personnelle de Poutine est très intéressante, et peut-être un peu tôt pour faire une recherche là-dessus. Mais cette dimension monarchique lui donne un pouvoir, elle est très importante, le fait d'être élu au suffrage universel, la dimension
de monarchie élective démocratique. Bon, ça lui donne du pouvoir face aux deux pôles, je dirais, de pouvoir en Russie, qui sont d'un côté la bureaucratie ou les bureaucraties fédérales, régionales, etc. Et c'est pas rien que de maîtriser ces bureaucrates. Et de l'autre, les oligarchies. Et Poutine se trouve en fait en position à la fois d'arbitre des bureaucrates, de chef de la bureaucratie. Il a réussi, ce qui est, à mon sens, son grand mérite, c'est d'avoir réussi à imposer aux oligarchies la loi de la bureaucratie, ou la loi de ça, des bureaucraties fédérales. En Russie, c'est vraiment maintenant la bureaucratie qui contrôle. Qui devient oligarque? On a vu que Poutine avait coopté dans l'oligarchie, la nouvelle oligarchie, des gens qui venaient de son entourage, Siechine par exemple. Bon. Alors que dans les systèmes politiques occidentaux, où on est aussi dans tous les systèmes politiques des grands pays développés, ont ces deux, mamelles, oligarchie d'un côté et bureaucratie de l'autre. Simplement, ce qui est intéressant en Russie, ce qui distingue la Russie, c'est qu'il y a un monarque au milieu qui arbitre et qui a beaucoup de pouvoir. Mais ce pouvoir n'est pas un pouvoir, d'en haut, vertical. C'est un pouvoir où l'autoritarisme, où on est plutôt dans l'arbitrage permanent, dans le compromis permanent. Et ce qui domine dans les dirigeantes, c'est plutôt les rapports de clientélisme et les arbitrages entre clientèle et clan, plutôt qu'un autoritarisme direct. On a l'impression, comme ça, vu de loin, il y a un certain discours martial. Poutine travaille aussi beaucoup cette dimension-là, parce que ça, c'est aussi un des vecteurs de son pouvoir et de sa popularité qui fait son pouvoir. Donc le côté je décide. On connaît tous les images. Il est tout à fait capable de monter dans un avion de chasse, tout à fait capable de se donner, de projeter cette image qui dans toutes les têtes. Mais en réalité, sa manière de gouverner, elle s'appuie davantage sur des compromis permanents, des négociations permanentes, etc., etc. Il y a une très bonne étude qui a été publiée par une cabinet de consultants qui s'appelle Minchenko, qui est sur Internet, qui est en russe et en anglais, qui s'appelle Politburo 2.0. Bon, Politburo, ça fait référence à l'ancien donc bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique, et qui essaie de cette étude très bien documentée et très bien informée, avec beaucoup de fondée sur beaucoup d'entretiens avec des membres de l'administration présidentielle, du gouvernement, des grandes entreprises, des oligarchies, on va dire, en Russie. Cette étude conclut à ce qu'effectivement on est dans un système où l'informel, où la négociation ou le compromis sont davantage que, l'autoritarisme, la règle. Simplement, tout ça se passe dans un cercle assez fermé, étroit et fermé. C'est-à-dire que assez peu de choses filtrent dans la presse, ou ce qui filtre dans la presse est toujours à passer à un second filtre d'interprétation, d'initié. Donc ça suppose de lire beaucoup de choses, d'avoir pas mal de contacts, de croiser les sources, etc., etc., pour essayer de comprendre comment ça se passe. Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans le mode de fonctionnement du poutinisme au pouvoir, c'est effectivement le contrôle de l'information. Et ça, c'est quand même quelque chose qui vient de sa carrière d'agent de renseignement et de sa formation professionnelle d'agent de renseignement, c'est-à-dire que la circulation d'informations est très maîtrisée. Bon, sous Yeltsin, pas mal de choses filtraient, passaient dans la presse, on avait on savait plein de choses, beaucoup de gens parlaient, etc. Et maintenant, avec le système Poutine, c'est beaucoup plus contrôlé. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Mais en même temps, les apparences ne correspondent pas à la réalité. C'est-à-dire qu'on sait que il y a pas mal de choses qui sont quand même écrites, où on peut avoir quand même pas mal de sources qui montrent que on n'est pas dans un système, dans le système autoritaire qu'on voudrait nous faire, auquel on voudrait nous faire croire. Et le seul exemple qui me semble probant, c'est de regarder ce qui se passe en Tchétchénie, la manière dont la Tchétchénie est gouvernée, l'autoritarisme en Tchétchénie, clientélisme, les violations des droits de l'homme du système Kadyrov, etc. Enfin là, on est quand même dans une véritable dictature d'un clan, avec des gens qui ont peur, qui se cachent, qui demandent l'asile politique en France, etc. Et c'est pas du pipeau. Hein. Comment ce système Kadyrov en Tchétchénie peut-il fonctionner
en Russie, si Poutine était un autocrate, et s'il n'était pas quelqu'un qui, je dirais, pratique le compromis, la Tchétchénie, ce pouvoir-là aurait été depuis longtemps mis à bas et on aurait une espèce de dictature, enfin une espèce de gouvernement militaire russe en Tchétchénie. Or, c'est pas possible. Donc, on voit bien que le système Poutine, c'est un système qui n'est pas un système d'autoritarisme pur et dur. C'est beaucoup plus complexe que ça, et beaucoup plus intéressant que ça, en fait.
Vous êtes sur Radio Courtoisie et on reçoit Jean-Robert Ravio sur l'actualité russe. Là-dessus, dans votre livre, vous dites que la Constitution, alors on sait que la Constitution change régulièrement, mais la Constitution a été très influencée par la Constitution française.
Pardon Patrick, la Constitution russe, il faudrait regarder, je pense qu'elle a moins changé que la Constitution française depuis 10 ans. Là.
Ça se
pourrait, bien qu'on fasse le compte, mais pas forcément pour les mêmes motifs et pour des questions à 3,50 francs, mais attention, quand on parle de le sujet numéro un de Poutine depuis qu'il est au pouvoir, et il l'a dit et il l'a écrit, et je soutiens Jean-Robert Ravio là-dessus, c'est sa volonté de redonner de la prévisibilité. C'est un de ses maîtres mots. C'est qu'il considère que dans le concert des nations, il n'y a de sérieux qu'à partir du moment où il y a prévisibilité. Et quand on parlait du discours de Valdaï, du discours de Munich, qui sont des discours où à chaque fois en Occident on dit « Oh là là, il pense tout ça, c'est horrible !» Oui, peut-être, mais enfin n'empêche qu'il le dit. Et donc, évidemment que les électeurs russes ont pu être considérés que le tour de passe-passe était un peu visible entre Medvedev et Poutine. Enfin, tout le monde, y compris et surtout en Occident, nous a expliqué que Poutine allait faire un truc là. Jamais il laisserait Medvedev être président pendant 4 ans pour s'effacer. Et puis alors après, on nous dit bah si, il l'a fait. Alors après, il reprend à la régulière, à la légale en tout cas. Et donc, vous voyez, il a toujours tort hein, de toute façon. Mais attention, il y a, on peut reprocher plein de choses, mais il y a une logique de prévisibilité et de relative transparence contrôlée, mais transparence dans les grands choix structurants de la politique russe. Mais pardon, je vous rends la main.
Non, c'était juste pour vous expliquer. Ils avaient été très influencés par la Constitution française. Et en fait, on pourrait, c'est vrai que le faire le décalage. L'époque gaullienne a été un peu dans ce système-là, avec un contrôle de l'information que De Gaulle savait maintenir au niveau, par exemple, de la télévision.
Alors ça ferait plaisir sans doute, non peut-être pas à Poutine directement, mais à ceux qui sont chargés de sa communication, on va dire ça comme ça, de cette comparaison avec le gaullisme, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, qui revenait très souvent dans la légitimation du système Poutine dans les années 2000, la fondation du parti pro-présidentiel Russie Unie, tout ça. Peut-être il y a des choses à comparer. Je pense que oui, mais je suis un grand lecteur de Alain Perfit là, on n'a pas l'équivalent pour là Poutine, on n'a pas encore un ministre qui oui, publie on attend ça, moi j'aimerais beaucoup ça, il faudra attendre encore 20 ans je pense.
Voilà. Je note qu'il y a simplement deux, on en discutait hein, il y a deux biographies en français disponible, l'une de Fedorovski, l'autre qui vient de paraître de Frédéric Pons, qui est connu des auditeurs de Radio Courtoisie, puisqu'il est journaliste à l'heure actuelle. C'est à peu près tout, me semble-t-il, à moins que c'est à peu près tout ce qu'on a sur Vladimir Poutine, en tout cas disponible en français.
Donc effectivement, on peut peut-être la citer. Donc cette biographie de Frédéric Pons qui s'appelle tout simplement Poutine aux éditions Kalman Levy. Peut-être d'autres observations sur Poutine et un point commun supplémentaire avec le gaullisme. La première chose, c'est que ce que je voudrais partager avec vous, mais également avec nos auditeurs, c'est que bien évidemment tous ceux qui ont connu les grandes heures de la guerre froide ont eu raison de frissonner à l'énoncé du mot KGB. Mais quand on regarde quelle était la réalité du poids du KGB dans l'appareil d'État, y compris dans sa capacité à s'intéresser à des domaines entiers de la vie économique, de la vie sociale, culturelle, etc. du pays, enfin aujourd'hui, à l'époque, un fonctionnaire russe qui passait par le KGB, je pense que vu de Sirius, ça doit être à peu près la même chose qu'un fonctionnaire de la Ve République qui sort de l'ENA. C'est-à-dire que il y a à un moment donné, dans les grandes matrices bâtisse fondatrice d'une élite administrative d'un pays, je pense que le KGB correspond à peu près à l'ENA. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est-à-dire que j'aimerais bien que moi les énarques soient un peu plus virils que, aussi virils que les KGBistes. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Si on ouvre celui de la vérité des énarques, on n'a pas fini d'y passer un certain temps. Mais ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que faut pas oublier non plus que les événements créent les hommes. Et effectivement, ce qui est tout à fait fascinant dans l'ascension de Vladimir Poutine, c'est qu'à un moment donné, il arrive après ce passage à Saint-Pétersbourg, il arrive dans la famille de Poutine, et à un moment donné, on pense à lui pour être celui qui va pouvoir tenir le couvercle sur la marmite, et puis à un moment donné, les événements faisant les hommes, Poutine s'émancipe, et c'est ça qui fait qu'il travaille sur sa capacité à maîtriser, enfin ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de comprendre à quel moment à quel moment le golem s'échappe. Et pourquoi je fais un lien avec De Gaulle. Enfin, n'oublions pas que en mai 1940, le général De Gaulle est un général de brigade à titre temporaire dans l'armée française. Des généraux, il peut dire qu'il y en a un certain nombre. Il y en avait presque plus que de charme. Enfin bon, qu'il a bien quelques thèses sur l'arme blindée cavalerie, mais c'est plus ou moins des choses qu'il a reprises ailleurs. Et la seule fois où on lui demande de faire ses preuves à Abbeville avec sa division cuirassée, le résultat est loin d'être honorable. Même si aujourd'hui la géographie gaulliste vous présente ça comme une espèce de d'Austerlitz avant la lettre dans la plaine Picarde. Et puis voilà, les événements font que. Alors, Poutine n'a pas vécu une guerre mondiale, mais l'état de désintégration de la Russie s'apparente largement au chaos qui a pu mettre en situation le général de Gaulle. Si on prend Churchill sort de la Première Guerre mondiale et serait ridiculisé, humilié par ses échecs, notamment aux Dardanelles et sur la conception de la guerre maritime, plus un certain nombre de scandales personnels, et il va être pourtant l'homme à laquelle auquel la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne devra probablement son salut. Et puis troisième élément, nous sur la force des tendances centrifuges qui reposent sur l'homme de synthèse qui doit être au Kremlin. Enfin, il faut jamais oublier que la Russie, c'est 7 ou 9, je veux pas dire de bêtises, fuseaux horaires, c'est 140 millions d'habitants, c'est le plus grand pays du monde. Enfin, ça ne se gouverne pas effectivement comme la France de Napoléon avec 95 préfets qui sont aux ordres dans la demi-heure.
Bon, il nous reste quelques minutes. Jean-Robert Ravio, je ne vais pas vous demander de jouer à Nostradamus, mais il va bien falloir qu'on sorte de cette position. L'Europe va bien être obligée de faire un pas en avant et dialoguer avec Poutine. Ils n'ont pas le choix.
Moi, je suis assez inquiet, à vrai dire, quand je vois la situation en Ukraine aujourd'hui et le blocage actuel, parce que c'est vraiment quelque chose de très préoccupant de voir de part et d'autre. D'ailleurs, hein, je pense qu'aussi côté russe, on est dans cette situation. Où on se perçoit comme en situation de défense, mais quand même en soutien à une insurrection armée à côté, quoi qu'on dise. Et de l'autre côté, on est vraiment dans une fuite en avant, je dirais, de soutien d'un pouvoir à Kiev qui me semble extrêmement compliqué à justifier, qui a assez peu d'avenir, à vrai dire. On est, je dirais, d'un côté comme de l'autre, mais surtout du côté occidental, dans une situation d'aveuglement terrible. Et cet aveuglement, si c'était que la presse et les médias, ce serait pas tellement grave. Oui. Et il me semble être à l'écoute des discours politiques et à commencer par le premier d'entre eux, c'est l'américain. Enfin, on est dans monde euro-atlantique, la capitale c'est Washington, c'est pas le discours de François Hollande qui importe, c'est celui d'Obama et surtout autour de lui, ou le discours de l'Allemagne. Il me semble qu'effectivement il y a une véritable, on croit à ce qu'on dit, et ce qu'on dit me semble totalement à côté de la plaque pour ce qui est de la situation ukrainienne. À Moscou, on est dans un double discours très clair, très classique. Nous ne soutenons pas, enfin nous n'intervenons pas en Ukraine, mais nous intervenons quand même, etc. Mais on y trouve quand même nos armes. Enfin bref, tout ça c'est extrêmement classique. Moi je suis très très pessimiste, je vous l'avoue, et très inquiet pour discours, oui, on est dans un... Je suis au moins aussi inquiet que Gorbatchev. Pourtant,
vous voyez un isolement...
C'est pas Gorbatchev.
Une décision des Américains vraiment d'isoler les
Russes. Non, je crois pas. Je pense que moi, je vois pas du tout de complot d'aucune sorte. Je vois des gens qui sont extrêmement convaincus de la vérité de ce qu'ils disent, ce qu'ils croient devoir décider du côté occidental. Et c'est ça, à la limite, qui me fait plus peur que si on était dans un complot avec des machinations, avec nous allons soutenir pour faire avancer tel pion. On est vraiment dans un discours très premier degré qui me... J'entendais l'autre jour le secrétaire d'État Kerry dans une conférence de presse tenir un discours sur l'Ukraine qui me semblait être... d'une certaine manière assez effrayant, c'est-à-dire on soutient, quelqu'un, un journaliste d'ailleurs, je crois russe, posait une question, disant mais quand même, regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez la situation politique, on peut pas dire qu'il y a une véritable unité de l'équipe en place, Poroshenko, Yatsenyuk, est-ce que c'est durable? Et puis il y a cette pression nationaliste ukrainienne qui est très forte, qui est bon, comment est-ce que les États-Unis pourront continuer à ignorer, disons, la situation interne en Ukraine? Et qui disait mais non, et la réponse de Kerry c'est non, l'Ukraine va très bien, il y a une démocratie, les gens ont été élus, il n'y a pas de problème. Et comment voyez-vous le fait que le gouvernement ukrainien bombarde l'est de l'Ukraine? Est-ce que vous pensez que la population est ukrainienne va à terme, il n'y aura pas de répercussions sur, disons, la légitimité de Kiev dans cette région? Non, tout ça, et donc cet aveuglement-là, moi, je trouve bien plus inquiétant qu'un complot éventuel. Et c'est un aveuglement et une bêtise terrifiante, pour dire les mots de manière assez claire et peut-être un peu désagréable.
Moi, je pense que moi aussi, je suis évidemment fortement inquiet. Pas pour les Russes. Je suis très inquiet pour nous, comme d'habitude, parce que nous sommes les dindons de la farce et que aujourd'hui, ce qui est en train de se concrétiser, de s'aggraver, c'est un fossé majeur entre une Europe dite occidentale, dont les élites suivent le petit doigt sur la couture du pantalon, par intérêt, par habitude, par facilité, par renoncement, que sais-je. Mais en tout cas, c'est ce qu'elles font, qui suivent la voie américaine, petit 1, y compris d'ailleurs pour prendre des décisions qui sont à l'inverse de nos intérêts et qui sont même parfois surréalistes. J'ai rappelé de cette histoire de reconnaissance du pouvoir issu des émeutes de Maïdan, qui est quand même, en termes de droit international, qui est quand même quelque chose de très fort. J'ai parlé des sanctions, etc. Donc ça c'est la première chose. Donc et deuxièmement, c'est que ça se traduit par effectivement une crispation des opinions publiques. Or la réalité de l'amitié entre les peuples et des liens du business, ça se fait au plus près du terrain. Et vous avez aujourd'hui toute une génération d'entrepreneurs, de jeunes diplômés qui viennent représenter les grandes entreprises françaises en Russie où il y a des marchés à prendre et à construire. Tous ceux qui font le voyage vous décrivent une Russie qui n'a rien à voir avec celle qu'on leur a appris. Le problème, c'est que ces gens-là sont de moins en moins nombreux parce que tout simplement, il y a d'abord un certain nombre d'activités qui sont gelées du fait des sanctions. Et deuxièmement, on leur explique que, attention, si tu vas y aller, patati, patata, etc. Songez que, je vais vous donner un exemple, l'affaire de la BNP. L'affaire de la BNP avec cette fameuse sanction de 9 milliards imposée à la BNP. Il y a un certain nombre de conséquences de ça. C'est que notamment la BNP est obligée d'héberger...
Les Américains, faut pas oublier. C'est oui. Les Américains qui ont mis...
Les Américains ont mis à l'amende 9 milliards d'euros, 9 milliards de dollars, donc un peu plus de 7 milliards d'euros là, la BNP, avec tout... et donc la BNP a payé, a plaidé coupable et a accepté donc un mémorandum avec un certain nombre de choses. Dans ces choses-là, il y a l'obligation pour la BNP d'héberger dans ses locaux et de payer les heures et les frais des experts de la SEC, qui est l'organisation de gouvernance majoritaire monétaire américaine. Et ces gens-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font régulièrement l'audit des différents cadres et dirigeants de la BNP pour savoir qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre business, vous faites quoi sur le pétrole, vous faites quoi avec les Russes, etc. Donc la BNP, cette première banque française, est obligée dans ses bureaux de payer des types qui auditent ces gars d'élite sur les activités qu'en toute bonne foi ils veulent prendre. Enfin, le niveau de soumission auquel nous sommes arrivés est absolument total. Et donc, ce que je crains, c'est qu'effectivement que tout ça aggrave et entretiennent un fossé qui recule cette union dont nous avons tant besoin. Je ne suis pas si inquiet que ça pour les Russes, parce que les Russes vont continuer à la godille à avancer en fonction de ce jusqu'où ils peuvent et croient qu'ils peuvent aller, d'autant plus qu'ils voient bien que les politiques des sanctions ayant déjà été très dures, un certain nombre de pays européens, notamment l'Autriche, la Hongrie, mais il y en a d'autres, n'ont pas envie d'aller plus loin. Or, les sanctions théoriquement se prennent à l'unanimité. Et la Russie va probablement effectivement aller plus loin. Elle va aider les pro-russes d'Ukraine, pourquoi pas, à aller jusqu'à Mariupol et prendre le contrôle de ce port vital sur la mer Noire pour faire une espèce de corridor entre les régions de l'Est et la Crimée. Rien ne dit que ce ne soit pas ça qui se prépare. Vous avez vu que depuis quelques jours, c'est la Géorgie qui est maintenant en proie à une crise politique profonde, avec la plupart des ministres pro-occidentaux qui viennent d'être démissionnés ou de démissionner. Donc il n'est pas dit que la Russie n'ait pas envie de reprendre pied là où on a essayé de la contenir ou de la chasser. La seule nouvelle positive pour nous, me semble-t-il, c'est que cette politique soumet à forte tension l'Union européenne, qui est dans une situation de plus en plus critique et de plus en plus désespérée. On connaît la position anglaise, aggravée par l'hypothèse de la contribution. On connaît donc les oppositions des uns et des autres sur ces politiques de sanctions. On connaît surtout, encore plus récemment, la déstabilisation peut-être de la commission Juncker avec l'affaire luxembourgeoise. Bref, aujourd'hui, le vouloir vivre ensemble de l'Union européenne est de plus en plus sujette à caution. Ça peut être une bonne nouvelle pour que l'on rebatte un peu les cartes et qu'un certain nombre de nations qui ont une vision et qui ont des capacités puissent se sentir davantage émancipées dans leur capacité à regarder la Russie.
Voilà, bah une note optimiste de la part de notre ami Philippe Christel. On va faire juste une pause. Alors je remercie Jean-Robert Ravio. On peut trouver encore son livre « Démocratie à la Russe, pouvoir et contre-pouvoir en Russie » qui reste toujours d'une actualité parce que... Aux éditions Ellipse, il est sur le fond et je vous le conseille vivement. Juste pour terminer, à une époque de l'Union soviétique, les journalistes occidentaux avaient moins de problèmes parce que j'ai retrouvé ça dans cet excellent livre « La désinformation, arme de guerre » de Vladimir Volkov, où le vice-président du comité olympique, c'était à l'époque des Jeux olympiques de Moscou, le vice-président du comité olympique soviétique avait de bonnes raisons de conclure cette dernière conférence de presse tenue à Moscou avec les journalistes occidentaux par ces mots: « Messieurs, je suis content de vous ». Voilà, ça prouve qu'à une époque, les journalistes n'avaient pas du tout le même discours.
Et, il y avait un lien qui s'appelait le marxisme, mais c'est pas totalement la même chose.
Et un message d'un auditeur qui nous dit sur Vladimir Poutine: « Vous oubliez le livre de Yannick Jaffré, Vladimir Bonaparte Poutine, que j'ai pas lu. »
Que j'ai lu, qui est un essai très intéressant et très audacieux, qui consiste à prendre l'objet Vladimir Poutine dans sa dimension idéologique et de faire le pari qu'on peut le comparer à une sorte de Bonaparte. Et c'est un essai très très bien écrit, très extrêmement cultivé, avec une vraie thèse, et voilà.
Voilà.
Mais on n'a pas cité l'éditeur.
Je l'ai pas, mais c'est cet auditeur qui est de Bruxelles nous donne simplement. Donc c'est le livre Vladimir Bonaparte Poutine, Yannick Jaffré, je pense qu'on le trouve.
Mais qui n'est pas
sans problème.
Qui n'est pas une biographie de Poutine.
Oui, ouais, qui n'est pas une.
D'accord.
Voilà.
Donc ok. On va faire une légère pause et puis on se retrouve pour le reste de l'actualité européenne.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents.
Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 23 novembre, nous célébrerons le 27e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 23 novembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2014 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 euros par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 23 novembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face aux 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie.
C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
De retour dans les studios de Radio Courtoisie pour cette deuxième partie, alors avec Philippe Christel qu'on a bien entendu, mais enfin sur la Russie c'était pas possible autrement. Philippe Christel.
Ben oui, je pouvais pas rester muet. Je me suis trouvé un copain là, donc
et ça a réjoui, je pense, les auditeurs. Alors on va peut-être, est-ce qu'on va passer à autre chose ou
presque simplement pour signaler un petit coup de cœur, parce que c'est, parce que je lis pas beaucoup, hein, donc c'est pas souvent que je viens parler de livres. Donc une fois que j'en ai lu un, je vais en profiter.
Livre, hein.
Et donc je voulais adresser à nos auditeurs une petite dédicace au sujet de ce livre qui s'appelle Le Grand Jeu, officiers et espions en Asie centrale. Donc Le Grand Jeu, vous connaissez ce terme, ceux qui ont été scouts le connaissent. Tout de suite, on pense à Kim, on pense à Rudyard Kipling, on aura l'occasion d'en reparler. Et en fait, Le Grand Jeu est un bouquin écrit par un anglo-saxon qui s'appelle Peter Hopkirk. Et ce bouquin décrit les différentes tentatives de la Russie tsariste et de l'Empire britannique pour conquérir des marches et des zones d'influence dans l'Asie centrale. Les premiers pour stabiliser leurs frontières sud, sécuriser leur capacité à, dans un premier temps, marcher sur Constantinople, sur la troisième Rome, que la troisième Rome arrive sur cette deuxième Rome. Et puis pour les seconds, c'était de sécuriser le joyau des Indes et s'assurer que personne ne viendrait faire acte de guerre. Et c'est assez intéressant parce que ça démarre presque sur un malentendu, puisque on aurait presque pu imaginer que les tentatives caucasiennes et orientées vers la Turquie des uns et puis purement à la périphérie de l'Inde des autres puissent coexister en paix, mais en fait ça n'est jamais vraiment comme ça que ça se passe. Et donc vous avez un siècle d'affrontements. Et alors ce qui est tout à fait fascinant, c'est que ce qui est compté dans ce grand jeu, ce sont en fait toute une série d'initiatives d'individus absolument extraordinaires et qui se ressemblent, soit qu'ils soient anglais, soit qu'ils soient russes, qui sont en fait de jeunes officiers en pleine santé, généralement plurilingues, formés à l'école du renseignement et en capacité à faire des périples absolument incroyables dans ces zones qui, à l'époque du monde, ne sont évidemment pas cartographiées et dont on ignore tout, le climat parfois, les altitudes souvent, et en tout cas les mœurs des terribles habitants qui n'ont pas encore à cette époque été touchés par la religion des droits de l'homme, croyez-moi bien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se lit presque autant qu'un roman d'aventure, et vraiment je conseille ça pour tout. Pour tous les âges en fait, mais c'est aussi une bonne invitation à l'aventure et à aller traîner ses guêtres dans ces régions malheureusement encore inhospitalières du fait des zones de tension. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'auteur nous montre la différence des visions politiques des uns et des autres. Et alors c'est très drôle parce que du côté russe, comme toujours, c'est pas toujours très bien organisé, si vous voulez. C'est-à-dire que en règle générale, entre ce qu'est décidé un jour à Saint-Pétersbourg, avant que vous rattrapiez le gars qui est parti et que sa caisse est à sa caravane de 40 chameaux, enfin une fois sur deux, quand il rentre, s'il rentre, il se rend compte que le tsar a changé, la politique a changé, etc. Les Anglais, c'est différent, puisque il y a le vice-roi des Indes. Alors bon, pas au début du 19e siècle, mais enfin il y a déjà une administration, il y a une volonté plus nette. Mais donc, en gros, on peut résumer que chez les Russes, il y a une espèce de volonté assez primaire et simpliste qui consiste à dire il faut planter le drapeau sans cesse plus loin. Et chez les Anglais, c'est plus différent, au sens c'est il faut que nos marchands puissent être partout. Et dégager la place à ces saloperies de marchandises russes pour qu'on mette les nôtres. Puis là, on installe les marchands, puis évidemment, les marchands vont un peu vite, se font bousculer, puis alors à ce moment-là, on envoie les lanciers du Bengale. Bon, je simplifie, mais c'est un peu ça. Et alors, vous avez quelques descriptions de la sournoiserie du marchand anglais déguisé en militaire, c'est absolument fascinant. Et alors, l'autre côté, c'est quand même de montrer quelles sont les doctrines. Et en fait, autant à Saint-Pétersbourg, il n'y a pas énormément de doctrines, autant il y a toute une tradition de publicistes et d'écrivains, que ce soit d'ex-militaires ou de géographes, qui publient sur la question, notamment à Londres, puisque l'idée est sans cesse d'installer une tension pour qu'on puisse avoir effectivement des moyens, nous en Inde, pour nous prémunir contre les éventuelles invasions russes. Et alors, on lit des textes amusants. Je vais vous faire quelques lectures rapides quand je vais retrouver ma page. Donc, d'un bouquin qui a été écrit à l'été 83 par un brave général qu'on imagine avec de superbes moustaches, qui s'appelle le général MacGregor. Donc, il aurait pu faire des shortbread, mais finalement, il écrit un bouquin. Et donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Tide, The Defense of India. Et alors, on lit cette phrase première. Je revendique solennellement ma conviction, dit-il. Pas moi, hein. Selon laquelle la question anglo-russe ne sera jamais vraiment réglée tant que la Russie n'aura pas été boutée hors du Caucase et du Turkestan. Ce qui quand même doit nous rappeler un certain nombre de choses. C'est assez intéressant de voir en géopolitique qu'il y a des constances. Je vais en citer une autre, toujours du même MacGregor, qui nous explique où est-ce. Ah! Il faudrait démembrer l'État russe de part en part de manière à ce qu'il ne représente plus aucun danger pour nous avant un long moment. Bref, je referme le livre, mais quand on regarde comment les rébellions tchétchènes ont été soutenues par le camp occidental et particulièrement par le camp britannique, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque de l'hébergement, bon bref. Quand on regarde la politique ukrainienne là maintenant et enfin la politique américaine en Ukraine, et quand on reboucle avec les phrases de Brzezinski, enlever l'Ukraine à la Russie, ça n'est plus un empire. Enfin, c'est intéressant. Une raison de plus pour faire lire ça à nos jeunes gens qui veulent se cultiver, c'est qu'ils verront qu'il y a des constances géopolitiques qui ne se nient pas.
Alors, redonner les références.
Le grand jeu. Officiers et espions en Asie centrale, de Peter Hopkirk, H-O-P-K-I-R-K, aux éditions Nevicata, N-E-V-I-C-A-T-A, disponible dans toutes les bonnes librairies.
Je crois que c'est Pascal Essaric, il existe aussi en poche.
Oui, il existe. Hein,
pour les plus jeunes.
Chez Babel, je crois.
Ouais, mais là il y a des photos et tout.
Non, c'est une belle édition. On peut pas la montrer, mais je peux vous assurer que c'est une très belle édition. C'est un grand classique.
Oui, c'est un très grand classique.
C'est incroyable. Vous avez conseillé un livre, Philippe. On va aller où maintenant si vous êtes
Je vais en faire un conseil en deuxième. Alors.
Un deuxième.
En fait, je vais non pas vraiment vous le conseiller. Je vais quand même vous le citer. Vous citez le fait que le très intelligent Hubert Védrine a sorti un énième bouquin aux éditions Fayard qui s'appelle La France au défi. Et alors, comme d'habitude, c'est toujours aussi éblouissant, puis c'est toujours un peu décevant. C'est-à-dire que, alors, Védrine est sans embâge et ne prend pas de gants pour remettre à leur place les déclinistes professionnels et ceux qui expliquent que, en gros, la France est sortie ou va sortir de l'histoire. Il n'épargne pas d'ailleurs les gens de la famille politique à laquelle il appartient ou celles qui lui sont très proches. Il décrit effectivement ce renoncement paresseux des classes dirigeantes françaises, en quelque sorte vexées que la mondialisation heureuse ne les ait pas laissées aux premières places du monde. Et donc il se livre un plaidoyer assez rafraîchissant d'ailleurs quand on le lit sur la capacité de la France à se redresser et sur l'attente qu'ont un certain nombre de nations à notre réveil. Bon. Ça fait toujours du bien de lire ça. Comme c'est Védrine, on peut imaginer qu'il faut le croire. Et il y a quand même deux lacunes majeures, me semble-t-il, dans Védrine. La première, c'est que il a tout un discours qui est assez nouveau chez lui sur la place de l'islam. C'est-à-dire qu'il explique que très clairement, il faut là pour le coup ouvrir les yeux, que l'islam radical est un danger beaucoup plus fort que ce qu'on imagine, que par pudibonderie ou sophisme parfois, on a souhaité ne pas le voir pour éviter de salir un islam soi-disant modéré, etc. Donc il prend le truc à l'envers, ça pourquoi pas. Mais donc du coup, c'est l'occasion pour lui de servir effectivement la soupe à un islam dit modéré, et il semble s'accommoder du fait que nos sociétés occidentales trouvent des rapports d'harmonie avec un islam modéré et dont on comprend que si ces rapports d'harmonie se font, y compris sur notre sol, du fait de la grande place des musulmans modérés, ben, c'est pas si grave que ça. Donc premièrement, je suis pas certain que ça. Enfin, j'ai été assez surpris par sa grille de lecture assez angélique sur l'islam, à l'en croire un certain nombre d'autres exégètes de l'islam. Petit un. Et deuxièmement, c'est que dans sa description des pesanteurs dont souffre l'État français aujourd'hui, il y a un discours assez classique, malheureusement assez classiquement libéral, c'est-à-dire qu'on pourrait entendre du Macron par certains côtés. Et puis Védrine omet totalement les questions de l'angoisse identitaire du peuple français. Et on lui demande pas d'être plus royaliste que le roi, mais quand on voit les bouquins de Julie par exemple, enfin il aurait pu aller au moins jusqu'à Julie. Et donc il a pour cette première fois, me semble-t-il, un raisonnement très économiste, très économicien, qui me semble balayer cette dimension. On comprend qu'il soit gêné, mais il l'a fait rentrer là dans un raisonnement de manière qui, à mon avis, ne sert pas son intelligence. Et donc c'est pourquoi je recommande.
Vous recommandez
livre
pas.
Pour que vous le sachiez qu'il existe et que maintenant c'est à vos risques et périls que vous entrerez en lecture, sachant qu'avec Védrine on sort quand même toujours plus intelligent que lorsqu'on en est rentré. Voilà. Alors, ça vous va pour mes conseils de lecture là.
C'est formidable. Hein, bon. Deux livres dans la
donc,
même soirée.
Quelques.
Alors, un peu d'actualité quand même.
Mais un peu d'actualité, puis un peu aussi peut-être de clin d'œil. Je voudrais quand même rappeler, on est les chroniques de la vieille Europe. On est le 11 novembre 2014.
C'est vrai.
Et je pense qu'on aurait pu faire un petit coup de chapeau sur la mémoire pour une fois que nous sommes tout à fait à l'aise de pouvoir défendre une mémoire qui est bien nôtre et qui est pas celle des autres. Je pense qu'il faut le faire, se rappeler que nous fêtons là effectivement un siècle de démarrage de cette grande guerre civile européenne qui est source de la quasi-totalité de nos maux. Je pense qu'il y a eu, indépendamment du contexte politique et politicien, je pense qu'il y a eu de belles commémorations aujourd'hui en France. Il y a eu de belles commémorations également à Londres. Je pense que vous aurez été peut-être esthétiquement sensible à cette opération des 888 000 coquelicots qui ont été régulièrement, journée après journée, installés. C'est un enfant qui a installé le dernier aujourd'hui, un enfant qui était en uniforme de parachutiste de l'armée britannique, ce qui n'est pas rien. Je suis pas certain que nous aurions pu faire les mêmes choix. Et je voudrais signaler pour le clin d'œil, parce que j'ai trouvé ça courageux et que c'est une belle histoire. C'est l'histoire de ce joueur de football irlandais de deuxième division d'un club du nord de l'Irlande. Et les joueurs qui jouaient des matchs ce 11 novembre étaient tous invités à porter à la boutonnière, bien évidemment, le coquelicot. Et ce gars-là a écrit au président de son club, « Écoutez, président, je porterai pas le coquelicot. Je porterai pas le coquelicot. Je suis désolé. Je sais l'hommage auquel ça correspond. Je sais que vous-même, votre grand-père est mort dans les tranchées, et donc je ne veux faire offense à personne. Mais moi, je suis né de tel faubourg de Belfast, et pour moi, le coquelicot, c'est aussi le coquelicot de l'armée britannique, c'est le coquelicot du Bloody Sunday, et pour ma famille, pour ma communauté, c'est pas possible. Moi, je veux que tout le monde vive en paix, que tout se passe bien, mais je ne porterai pas ce coquelicot. Et le président du club lui a fraternellement serré la main, et ce gars-là a pu faire son match sans jouer le coquelicot, mais les choses ont été dites et faites sans provocation, et je voulais citer cela. Il me semble quand même que nous devons nous souvenir de ces sacrifices de cette Première Guerre mondiale.
Ah, alors attendez, il y a Jean-Robert Raviot sur le 11
novembre 2014, centenaire de 14. Je vais juste faire un peu publicité de mon université, puisque la BDIC de Nanterre, avec le musée de l'armée, musée d'histoire contemporaine, de l'histoire, donc à l'Hôtel National des Invalides, a une exposition très bonne et très intéressante qui s'appelle Vue du front, que je conseille aux auditeurs de cette radio d'aller voir. C'est une excellente exposition sur ce thème de la guerre Vue du front.
Très bien. Juste avant que vous repreniez, Philippe, le livre de tout à l'heure, Vladimir Ponard, Bonaparte Poutine, c'est aux éditions Perspectives Libres. Donc on remercie cet éditeur.
Voilà, et puis écoutez, puisqu'il nous reste quelques minutes, donc la deuxième commémoration, c'est nous avons donc il y a deux jours, nous avons fêté la chute, les 25 ans de la chute du mur de Berlin, et il me paraît là aussi important dans notre émission que des chroniques de la vieille Europe que nous passions un petit moment dessus. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que une partie d'ailleurs de notre discours tout ce soir a consisté à reprocher, on a parlé de Madame Merkel, mais reprocher que l'Allemagne soit depuis un certain nombre d'années maintenant le porte-avions américain en Europe, et que à l'évidence le camp de l'OTAN et le camp occidental a décidé d'investir l'Allemagne de la responsabilité qui était celle des Américains des années précédentes de s'assurer que la vieille Europe ne tombe pas dans les bras ou ne rêve pas à d'autres alliances. Et ceci plus le fait qu'il y ait un écart majeur de performance, de compétitivité, de résultats entre l'Allemagne et nous, a pu amener à un certain nombre de reprises des leaders politiques comme des influenceurs à se livrer à une certaine germanophobie. Hein, je ne vais pas reprendre les propos d'Arnaud Montebourg ou de Marine Le Pen en son temps, mais il y a également un certain nombre de propos d'écrivains et d'universitaires, et ils ont tout à fait le droit d'être germanophobes. Hein, tout le monde a le droit de... Mais je crois que dans la critique que nous faisons de l'Allemagne, il ne faut pas que nous oublions, nous Français, que nous récupérons l'Allemagne d'aujourd'hui. De l'Allemagne d'aujourd'hui, nous récupérons ce que nous avons semé en 1945. Et il ne faut pas oublier que nous avons fait le choix de nous associer en 1945 à une politique d'éradication physique, spirituelle, matérielle et morale de l'Allemagne qui, me semble-t-il, doit plutôt nous faire honte que nous rendre fiers. Nous avons étaient les premiers à souhaiter la division de l'Allemagne en quatre zones qui sont devenues deux pays, et nous avons quelque part posé les premières pierres de ce mur de Berlin dont nous fêtons aujourd'hui, et c'est heureux, les 25 ans de la chute. Voilà, je voudrais simplement que, puisque nous aussi nous devons faire preuve de longue mémoire, attention dans nos critiques qui doivent être réelles de l'influence qu'a l'Allemagne aujourd'hui par rapport à notre projet d'une Europe des peuples qui soit libre et déterminée de manière indépendante. N'oublions pas que nous avons notre part de responsabilité dans ce processus, et ce qui nous éviterait de nous livrer à quelques réactions de paresse germanophobe, qui sont les mêmes réactions qui ont plongé l'Europe dans le bain de sang de 1914. La boucle est bouclée. CQFD. J'ai fini.
Ah ben c'est parfait, Jean-Philippe. Puis quand on voit la politique européenne de François Hollande. Enfin bref, on en parlera peut-être un autre jour. Merci à tous, Philippe Christel, Pascal Essérick, Jean-Robert Ravio. Fin de ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie. On se retrouve bien sûr dans 4 semaines. D'ici là, continuez à écouter Radio Courtoisie et bonne soirée à tous.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
It's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Change this mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.